Et c'est l'heure de la revue de presse avec vous, Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous nous parlez d'enfants gâtés ce matin ?
Oui, un peu ce que nous sommes quand même parfois. Je me faisais cette réflexion en lisant La Voix du Nord ce matin, qui nous parle de cette mode à travers le monde ces derniers temps de vouloir récompenser celles et ceux qui daignent se faire vacciner. Vous savez, on vous offre une pizza, un chèque, une bière, parfois même un petit joint ou un billet de loterie. Ça nous fait sourire, ça peut faire envie. Et au fond, pourquoi pas, du moment que c'est efficace et qu'on vous encourage à faire le premier pas. Sauf que non, en fait, non. Récompenser les vaccinés, cela signifie inverser les rôles, s'agace Jean-Michel Bretonnier. Un édito qui bouscule. Non seulement le citoyen ne reconnaît pas sa dette envers la société, mais en plus, il attend une rétribution. Non seulement on ne parle plus du collectif, de l'intérêt général, mais même le bénéfice personnel ne suffit pas. Non, il faut y ajouter un stimulant matériel, ce bon vieux principe de la récompense immédiate, pour lever les dernières réticences de celles et ceux qui ne sont ni franchement favorables au vaccin, ni radicalement opposés. Alors bien sûr, il y a de la com dans ces opérations, bien sûr elles permettent de dédramatiser, n'empêche que c'est aussi un renoncement, estime Jean-Michel Bretonnier. Je veux bien me faire vacciner, mais qu'est-ce que vous me donnez en échange ? Bref, le citoyen devient chaque jour un peu plus un enfant roi qui accumule les droits. Pas de contraintes, surtout. Oui, mais jusqu'à quand ? Refuser la vaccination, c'est une trahison, s'emporte un ex-ministre de la Santé ce matin dans le JDD. Bernard Kouchner, qui veut sortir de cette gloriole virile, celle qui consiste à se vanter de ne pas être vacciné. Il faut convaincre les indécis, les bassiner avec des arguments, dit-il. Et cette idée qu'à terme, les injections deviendront obligatoires pour tous. Après tout, c'est nous qui avons inventé la vaccination, nous avons eu Pasteur, et puis rappelons-nous que dans notre pays, les tests PCR sont gratuits, souligne Kouchner. Nous sommes généreux, les individus doivent l'être aussi. Généreux à l'échelle de la planète, pays riche, pays pauvre, et les risques d'une fracture nord-sud, titre le journal Le Monde, fracture vaccinale avec ce planisphère aux couleurs explicites, c'est vert en Europe, vert en Amérique du Nord, là où plus de 50% de la population a reçu au moins une dose, et c'est rouge en Afrique où l'on s'effondre à moins de 5% pour cette même première injection. Le Monde est en train d'échouer, s'inquiète l'OMS. Cette situation abîme la confiance commune, constate ce responsable africain vis-à-vis de notre continent prospère, alors que cette pandémie n'est certainement pas la dernière et qu'il nous faudra encore affronter ensemble d'autres virus.
Vous nous parlez aussi d'un écrivain, Jean-Philippe.
Qui vous parle aussi du Covid et de ses masques sanitaires. C'est Christian Bobin dans le JDD. Ces masques, dit-il, qui révèlent peut-être comme jamais la vérité d'une personne à travers l'éclat de ses pupilles, les craintes, les joies que l'on peut y lire. C'est ce que je retiens. Christian Bobin qui désormais contemple la vie et se passionne pour une pâquerette rencontrée récemment. Oui, elle avait poussé au milieu d'une tache de goudron. Vous rendez-vous compte de la puissance quasi atomique nécessaire pour percer la masse noire du goudron sur le sol. Cette toute petite fleur avait réussi. Elle m'a ébloui. Et il n'a pas tort au fond, Christian Bobin.
Il y a donc des pâquerettes et aussi de la pelouse ce matin dans les journaux.
Of course, la pelouse du stade de Wembley. Alors, dans un monde parfait, les amis d'équipe de France seraient en finale de l'Euro ce soir. Il y en aurait tout plein vos journaux. Mais bon, nobody's perfect. Et ce matin, pour trouver du short et du crampon, il faut aller chercher en Italie et en Angleterre. L'Angleterre en transe, littéralement, à la recherche d'une coupe désespérément depuis 1966. Et le Mail qui vous offre dans son édition de ce dimanche un super poster géant de la sélection nationale et vous implore de l'accrocher à votre fenêtre en attendant l'heure du match. Il y a aussi le titre d'une chanson de David Bowie à la une du Sunday Mirror. Et quelle chanson ! Nous pouvons être des héros, we can be heroes, avec un jeu de mots forcément sur le can comme Harry Kane, le capitaine de la sélection. Allez, chers amis, allez, encore un match. Once more, titre le Sunday Times avec le bleu et blanc de l'Angleterre. Faites-le pour le pays, faites-le pour la reine, supplie le Sunday Telegraph. Vous noterez dans l'ensemble le ton posé, la sobriété générale. C'est un peu la même chose forcément chez nos amis italiens, encore que c'est une double dose ce matin, un double W à la une de la Gazzetta dello Sport, le W du stade de Wembley et le W de Wimbledon, raquette et gazon, parce que oui, là aussi, les Italiens sont en finale, et c'est la toute première fois avec Matteo Berrettini face à Djokovic. Je note enfin cette analyse de l'emblématique entraîneur Arsène Wenger ce matin dans le JDD. L'Angleterre et l'Italie sont le symbole de la non-starification, Et surtout, évidemment, on ne vise personne.
Personne. Dans les journaux, il y a donc du collectif, mais aussi des différences.
Et il était temps de mettre les choses au point une bonne fois pour toutes, à la une du Télégramme ce matin, qui nous révèle que, oui, les Bretons sont génétiquement différents. Je ne plaisante pas. C'est le résultat d'une étude scientifique, tout ce qu'il y a de plus sérieux,
on
qui
va
constate.
Du courrier.
Cette étude constate le particularisme breton, c'est pas moi qui invente, hein, par rapport au reste du pays, de fortes ressemblances, paraît-il, avec les populations du nord de l'Europe. Différent également à sa manière, ce personnage que je découvre en première page du Berry Républicain. Il s'appelle Hubert Jacquet, garagiste de son état et collectionneur fou de vélos Solex. Il en a aux alentours de 400 venus de partout, de Chine, d'Écosse, des États-Unis. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, le vélo Solex, c'était un petit deux roues avec le moteur à l'avant, qui calait tout le temps, mais qui redémarrait toujours au premier coup de pédale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Hubert bichonne ses machines, mais il ne roule pas avec, non. Ce qu'il aime, c'est la quête, comme tout collectionneur qui se respecte. Oui, je sais, dit-il, c'est un peu bizarre. Bizarre enfin, les amis, ce fétichisme des pieds, ou plus exactement, du pied. Une histoire drôle que je savoure dans La Voix du Nord ce matin avec Jean-Jacques Dordain. Ce monsieur fut longtemps directeur de l'Agence Spatiale Européenne. Les hommes et les étoiles, ça l'a toujours passionné. Et bien à ce propos, il vous raconte son face-à-face incongru avec son idole absolue. J'ai nommé le premier homme sur la Lune, Neil Armstrong. C'était au Salon du Bourget au début des années 70. Ce jour-là, Armstrong, forcément, est l'invité vedette, assailli par la foule, inapprochable. Mais Jean-Jacques Dordain veut lui parler, veut le toucher. Alors il se ferait un passage jusqu'à l'astronaute. Les voici maintenant nez à nez. Et Jean-Jacques Dordain, soudain, improvise. « J'aurais pu lui serrer la main, dit-il, mais à la place, j'ai demandé si je pouvais lui marcher sur le pied. » Oui, ce pied historique, ce pied lunaire, celui du petit pas pour l'homme. Eh bien, figurez-vous que Neil Armstrong a éclaté de rire et qu'il l'a laissé faire, il s'est laissé marcher dessus. Neil Armstrong, dont on disait qu'il était le seul personnage au monde dont on regardait systématiquement le pied quand on lui serrait la main.
C'était la revue de presse de Jean-Philippe Ballas.